Good morning.
Bonjour, le secrétaire général fera quelques remarques sur la séance du Conseil OTAN Ukraine, puis vous pourrez poser des questions. Monsieur le secrétaire général. Bonjour, nous venons d'avoir une séance productive du Conseil OTAN Ukraine avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba. Il s'agit de la première séance dans ce format. Il s'agit de la première ministérielle Affaires étrangères au Conseil OTAN-Ukraine. Aujourd'hui, nous avons approuvé un programme ambitieux pour l'année qui vient, qui prévoit la sécurité énergétique, l'innovation et l'interopérabilité. Nous avons parlé également de la situation sur le terrain. L'an dernier, l'Ukraine a emporté les batailles pour Kiev, Kharkiv et Kherson. Cette année, l'Ukraine continue d'imposer de lourdes pertes à la Russie. L'Ukraine a repris 50% des territoires saisis au départ par la Russie. En mer Noire, les Ukrainiens ont refoulé la flotte russe et ouvert des corridors pour l'exportation de céréales, renforçant ainsi la sécurité alimentaire mondiale. Le plus important, c'est que l'Ukraine s'est imposée en tant que nation démocratique, indépendante et souveraine. Voilà une immense réalisation et une grande réussite. L'Ukraine avance et la Russie recule. La Russie est désormais plus faible sur le plan politique, militaire et économique. Sur le plan politique, la Russie perd de son influence dans son étranger proche, pas uniquement en Ukraine, mais aussi dans le Caucase et en Asie centrale. De plus en plus, la Russie dépend de la Chine aussi. Chaque année, Moscou hypothèque son avenir au profit de Pékin. Sur le plan militaire, la Russie a perdu une part considérable de ses forces conventionnelles, soit des centaines d'aéronefs, des milliers de chars et plus de 300 000 hommes. Sur le plan économique, la Russie subit également des pressions. La manne pétrolière chute. Les avoirs bancaires russes font l'objet de sanctions. Plus de 1 000 sociétés étrangères ont cessé ou réduit leurs activités en Russie et 1,3 million de personnes ont quitté la Russie l'année dernière. Tout cela souligne l'erreur stratégique commise par Poutine quand il a envahi l'Ukraine. Cela dit, nous ne devons pas sous-estimer la Russie. L'économie russe est sur le pied de guerre. Poutine ne se formalise pas du nombre de pertes dans ses rangs et les visées russes en Ukraine n'ont guère changé. La Russie a accumulé d'importants stocks de missiles à l'approche de l'hiver et nous assistons à de nouvelles tentatives de frapper le réseau électrique et les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pour tenter de plonger l'Ukraine dans le froid et le noir. Je me félicite des mesures prises par les alliés pour continuer à renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine. La semaine passée, 20 alliés ont convenu de former une coalition de défense aérienne au profit de l'Ukraine. Voilà qui aidera à protéger les forces armées et les villes de l'Ukraine et à sauver des vies en Ukraine. Nous nous attachons à transformer le paquet complet de mesures d'assistance de l'OTAN pour en faire un programme pluriannuel d'assistance. Il s'agit d'aider l'Ukraine à faire la transition d'équipements soviétiques aux équipements et aux normes de l'OTAN pour assurer la pleine interopérabilité avec nos forces. À la séance, nous avons également discuté de la voie de l'adhésion de l'Ukraine. Les alliés conviennent de ce que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN. Nous avons avancé des recommandations sur les réformes prioritaires que doit mener l'Ukraine, y compris dans la lutte contre la corruption, le renforcement de l'état de droit et le renforcement des droits humains et des droits des minorités. Plus que jamais, l'Ukraine est proche de l'OTAN et nous continuerons à accompagner l'Ukraine dans la voie de l'adhésion et nous continuerons à soutenir la lutte de l'Ukraine pour la liberté. Et j'attends vos questions.
Please, in the fourth row.
Le New York Times, au quatrième rang. Bonjour, merci. Monsieur le secrétaire général, pourriez-vous préciser un petit peu les réformes que les alliés ont demandé à l'Ukraine d'entreprendre pour s'acheminer vers l'adhésion? Vous avez parlé du renforcement de l'état de droit, d'une réforme du secteur de la défense, de la lutte contre la corruption. Ça fait des années que vous le demandez. En ces temps de guerre, pourquoi l'Ukraine se concentrerait-elle là-dessus et quels sont les délais prévus pour la mise en œuvre de ces réformes? Je suis en fait impressionnée par la mise en œuvre de réformes et la modernisation de la société, de sa société par l'Ukraine au cœur de la guerre. Nous avons vu que l'Ukraine avait induit des changements de législation, avait apporté des modifications, notamment dans la lutte antiterroriste. L'Ukraine est en train de créer, de refondre son système d'acquisition de défense en étroite coordination avec l'OTAN. Et l'Ukraine modernise également ses services de renseignement. Ce ne sont là qu'une poignée, trois exemples, de la manière dont l'Ukraine évolue et met les bouchées doubles dans la lutte contre la corruption, mais aussi dans la révision de son système pour l'acquisition d'équipements de défense. C'est important pour l'Ukraine parce que cela va aider l'Ukraine à être plus forte pour lutter contre l'agression russe, mais cela va aussi aider l'Ukraine à se rapprocher de l'OTAN, d'une adhésion à l'OTAN. Et l'un des sujets essentiels que l'on a abordé à la réunion d'aujourd'hui, c'est comment les alliés de l'OTAN peuvent collaborer plus étroitement encore avec l'Ukraine sur ces trains de réforme et comment nous pouvons utiliser le Conseil OTAN-Ukraine afin de veiller à ce qu'il y ait une mise en œuvre pleine et entière de ces réformes. Nous avons entériné le programme de travail et la sous-structure du Conseil OTAN-Ukraine dans ce but-là, pour la poursuite des réformes et la modernisation de la société. Intervention en micro. Nombre de ces réformes sont déjà lancées, je vous le disais. C'est un effort en cours. Nous avons vu des mesures concrètes prises par les autorités ukrainiennes dans la lutte contre la corruption. Des décisions ont déjà été prises à ce titre. C'est en cours et les choses sont en train d'être mises en œuvre.
Presse ukrainienne, deuxième rangée. Monsieur le secrétaire général, à l'heure actuelle, les pilotes ukrainiens sont formés en Roumanie au pilotage et à la maintenance de F-16. Pouvez-vous préciser le calendrier pour la mise à disposition de l'Ukraine de F-16 et quels sont les obstacles, les facteurs qui conditionnent tout ce processus? Réponse. Oui, je me félicite de la décision prise par des alliés de l'OTAN, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, d'offrir des F-16 à l'Ukraine. Et je me félicite du fait que la formation des pilotes F-16 a déjà commencé. Il y a quelques semaines de cela, un centre de formation de pilotes a été mis sur pied en Roumanie. Je ne peux pas vous préciser la date, mais j'espère que la fourniture des aéronefs commencera le plus rapidement possible. Les aéronefs sont acquis. Là, il ne reste plus qu'à former les pilotes. Cette formation se donne en Roumanie et les États-Unis ont précisé qu'on pouvait tout à fait offrir des F-16 à l'Ukraine. Les F-16 vont faire la différence, bien entendu, et renforcer la capacité de l'Ukraine d'infliger des pertes aux forces de l'envahisseur russe, et les F-16 vont contribuer à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. Cependant, nous devons bien reconnaître à présent que ce n'est pas une panacée et ce n'est pas un seul système qui, en soi, permettrait de changer la donne sur le champ de bataille. Il faut conjuguer beaucoup d'éléments, beaucoup de capacités, les exploiter en parallèle, afin de refouler les forces russes et nous devons nous préparer à de longs combats très durs. On met à disposition des missiles de croisière, des HIMARS, des chars d'assaut modernes, ainsi que les F-16. Mais voilà, il n'existe pas de solution miracle. Ce n'est pas une seule plateforme qui pourrait seule changer la situation sur le champ de bataille.
NTB. Viviana Piena de l'Agence norvégienne d'information. Je voudrais changer un petit peu d'optique et aborder la question de Gaza. Monsieur le secrétaire général, hier, vous avez dit que le droit humanitaire international doit être respecté dans tout contexte. Dernièrement, plusieurs pays, dont la Norvège, ont condamné et le Hamas et Israël pour des violations du droit humanitaire international. À votre avis, Israël est-elle en violation du droit humanitaire dans sa lutte contre le Hamas dans la bande de Gaza? Je l'ai dit, le droit international doit être respecté, le droit humanitaire international. Les vies des civils doivent être protégées. Je salue d'ailleurs la pause, la trêve dans les hostilités qui a été agréée et son extension de cette trêve. J'espère également que des conditions pourront être mises en place afin de pouvoir prolonger encore cette trêve dans les hostilités. Effectivement, il est essentiel que le droit humanitaire s'applique à tout conflit. Cela a été, cela continue d'être mon message. Nous voyons d'ailleurs des déclarations claires des alliés qui vont dans le même sens.
Question du Washington Post. Merci, Michael Birnbaum. Le général Zaloujny parle d'une impasse et vous avez indiqué que les alliés s'accordent pour dire que l'adhésion de l'Ukraine n'est pas possible en pleine guerre. Est-ce que vous avez pu évoquer aujourd'hui ou hier les mécanismes qui permettraient à l'Ukraine, dans une telle guerre qui est dans l'impasse, d'être admise à l'OTAN? Concrètement, comment ça se passerait? Vous avez dit que Moscou hypothèque son avenir au profit de la Chine. Et quels sont les éléments de preuve de la dépendance de Moscou envers Pékin dans le contexte de cette guerre dont vous disposez? Réponse. Nous voyons une dépendance économique. Nous voyons que la Russie dépend de plus en plus de la Chine pour des matières premières, des moyens financiers dont des produits indispensables pour son industrie de la défense. Et la Russie n'est pas en mesure d'exporter le gaz et le pétrole comme la Russie le faisait auparavant en Europe, qui était jadis le principal marché pour le gaz russe, ce qui accroît d'autant la dépendance envers la Chine. Chaque année, nous voyons donc que Moscou hypothèque son avenir au profit de Pékin. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de cet affaiblissement économique de la Russie provoqué par cette guerre. Il nous faut reconnaître aussi que, effectivement, il n'y a pas eu de changements fondamentaux ces derniers mois sur la ligne de front, mais les combats intenses se poursuivent. Les avancées militaires s'évaluent de différentes manières. On peut compter le nombre de mètres carrés repris. L'année dernière, les Ukrainiens ont pu libérer d'énormes pans de territoire, repoussant les forces russes de 50% des territoires occupés au début de la guerre. Alors, l'Ukraine a pu reprendre un grand nombre de mètres ou de kilomètres carrés. Mais il y a d'autres manière d'évaluer les avancées militaires des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont pu mener des frappes dans la profondeur et détruire des capacités clés de la Russie, dont des avions de chasse, des bombardiers lourds, des hélicoptères. Les Ukrainiens, sans avoir une véritable marine, ont pu refouler la flotte russe jusqu'à Novorossiysk, ce qui permet justement d'ouvrir ces couloirs d'exportation des céréales à bord de navires qui quittent Odessa et qui passent par la mer Noire. Voilà une énorme avancée qui ne se calcule pas en mètres carrés. On voit l'Ukraine détruire des capacités russes, repousser la marine russe et exporter des céréales par la mer Noire. L'Ukraine continue donc d'imposer de lourdes pertes à la Russie. Et voilà qui montre, si besoin en était, qu'il s'agit d'une guerre intense et dynamique en raison de leurs compétences, de leur bravoure et des systèmes d'armes fournis par les alliés, dont les Storm Shadow, les missiles de croisière fournis par le Royaume-Uni, ainsi que des systèmes de pointe de défense aérienne et d'autres équipements encore. Grâce à tout cela, l'Ukraine impose de lourdes pertes et engrange des avancées militaires face à l'envahisseur russe.
Nous avons le temps pour deux questions encore. John Lee, de la TV Corée du Sud, j'ai entendu votre déclaration par rapport au lancement par la Corée du Nord. La Russie et la Corée du Nord renforcent leur coopération. En avez-vous parlé à cette réunion? Ce que nous avons vu, et cela démontre une fois de plus la faiblesse de la Russie, c'est qu'ils sont de plus en plus dépendants de pays comme la Corée du Nord ou l'Iran pour leur livraison d'armes. La Corée du Nord a livré un appui militaire, notamment des munitions, à la Russie. Et la Russie et la Corée du Nord coopèrent plus étroitement. Nous avons également vu le lancement du satellite militaire, lancement que nous avons condamné car il est en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et fait également partie du programme nucléaire et du programme de développement de missiles nord-coréens. C'est dangereux, c'est aussi quelque chose qui est en violation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Question d'ATV du Kosovo. Quel est donc le message de l'OTAN sur la paix et la stabilité dans la foulée des incidents survenus au Kosovo? Un policier kosovar a été tué. Et est-ce que l'association des municipalités serbes pourrait prémunir le Kosovo contre des attaques comme celles que nous avons vues en septembre? Et quid de la stabilité et de la sécurité dans les Balkans occidentaux plus globalement? Réponse. Cette année, il y a eu effectivement de graves exemples de violence au Kosovo. Je viens de m'y rendre et ce printemps, nous avons vu donc des attaques contre des forces de maintien de la paix de l'OTAN. Il y a eu 93 blessés. Parfois, leurs blessures ont changé leur vie, ce qui est inadmissible. Et nous avons vu cet incident que vous avez évoqué, où il y a eu des morts. Tout cela est on ne peut plus grave et met en évidence les défis que nous vivons au Kosovo. Cela souligne aussi l'importance de la désescalade de part et d'autre pour se garder de tout acte destiné à aviver les tensions et de se garder de tout discours qui jetterait de l'huile sur le feu. Et voilà, c'est le message que j'ai communiqué lors de mes déplacements à Belgrade et à Pristina. J'ai souligné que Pristina et Belgrade doivent mener des pourparlers de bonne foi dans le dialogue facilité par l'Union européenne. Le Kosovo est un bon exemple de étroite collaboration entre l'UE et l'OTAN. L'UE s'occupe du volet diplomatique et nous assurons une présence de milliers de militaires sur le terrain. Et en fait, nous avons envoyé encore 1 000 militaires de l'OTAN pour amener notre contingent à 5 000 militaires de l'OTAN au Kosovo. Cette proposition d'une association des municipalités à majorité serbe offre certaines perspectives, en effet, pour ce qui est de parvenir à une solution dans le cadre du dialogue facilité par l'Union européenne. Alors effectivement, c'est tout à fait envisagé.
Merci, Slajan Tomic, Buka Magazine. Est-ce que envoyer des troupes, plus de troupes en Bosnie est envisagé? Nous avons un QG militaire en Bosnie, mais nous y travaillons pour soutenir les efforts de la force de l'Union européenne. Autre exemple du travail en très étroite collaboration entre l'OTAN et l'Union européenne, étant donné que ces forces viennent des mêmes pays, pays tantôt OTAN et Union européenne. Le mandat des Nations unies pour cette force de l'Union européenne a été renouvelée. Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions dû envisager d'autres options dans le giron de l'OTAN. Mais étant donné que le mandat de cette force de l'Union européenne a été renouvelé, nous avons insisté sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de vide sécuritaire en Bosnie-Herzégovine, d'où nous avons soutenu bec et ongle le renouvellement du mandat de la mission EUFOR Althea avec l'appui de l'OTAN. Nous avons les accords Berlin Plus, qui sont des arrangements qui permettent à l'OTAN d'apporter son soutien, notamment en apportant le commandement et le contrôle de cette force. Voilà, le temps de cette conférence de presse est écoulé. Merci beaucoup.
Oui, à ce sujet-là, nous avons eu de bons échanges et les alliés ont communiqué un message haut et fort. Soit nous voulons la ratification dès que possible. À Vilnius, nous nous étions mis d'accord sur l'importance de conclure le processus de ratification au profit de la Suède. Et je salue le fait que le président Erdogan, il y a quelques semaines de cela, a présenté les protocoles au Parlement turc. Et la Commission des affaires étrangères du Parlement turc a commencé à débattre de ce document. Le président Erdogan a soumis ces documents et, ce faisant, il a recommandé la ratification des protocoles. C'est ce que prévoit la proposition qu'il soumet au Parlement turc. Et dans la foulée des décisions que nous avions prises à Vilnius, j'attends que le Parlement veille à assurer la ratification, parce que l'accord à Vilnius prévoyait deux étapes. D'abord, soumettre les protocoles pour ratification, c'est chose faite. Ensuite, le gouvernement, l'exécutif, doit travailler avec le Parlement pour faire conclure ces documents et que cela intervienne le plus rapidement possible, parce que ce sera dans notre intérêt à tous, pour l'ensemble de l'Alliance, d'avoir la Suède comme alliée à part entière.